Il y a des questions comme ça où on a particulièrement beaucoup de questions. Parce que ça touche un problème évidemment très complexe. Alors, on le traite au point de vue psychologiste, traitez-le, et rarement on le regarde au point de vue philosophique. Parce qu'au point de vue philosophique, il faudrait regarder ce qu'est la personne et voir comment, parce que tous les deux, c'est la nature humaine. Et la personne est différente. La personne de l'homme est différente de la personne de la femme. Et il y a une différence, il y a une manière différente d'atteindre la finalité. C'est-à-dire une manière différente entre le point de vue de l'alliance entre l'intelligence et la volonté. Avec une diversité qui se fait très vite au point de vue de l'imagination. L'imagination est une faculté très particulière et qui est toujours dans le devenir, dans un devenir imaginaire. L'imagination se diversifie en fonction des relations. C'est la faculté des relations, l'imaginaire. Avec une image toujours qui se forme diversement, aussi selon la qualité différente des sensations. On a une imagination plus proche du toucher, une imagination plus proche des yeux, de la vision, une imagination plus proche du goût. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est une recherche, je crois, qui serait très intéressante à faire. Que nous sentons très, très vite, ça. On sent très vite qu'une jeune fille n'a pas du tout les mêmes imaginations qu'un jeune homme. Alors, essayez de voir. Cette imagination, notre imagination, est toujours dépendante des sens externes. Votre imagination varie suivant que, pour vous, la vision est primordiale. Alors, vous avez une imagination visionnaire. Vous avez une imagination qui soit beaucoup plus du toucher. Et c'est l'imagination féminine est beaucoup plus du toucher, l'imagination masculine est beaucoup plus à la vision. Ordinairement. Et entre deux, il y a des gammes. L'odorat, l'imagination de l'odorat. Le chien, il y a une imagination de l'odorat qui est extraordinaire. Alors, il y a des gens qui sont chiens. Puisque ça se dit, espèce de chien. L'odorat, le goût. Et au fond, ça n'a pas été du tout. Parce que on a peu développé une psychologie qui est à base de l'analyse que nous donnent saint Thomas et Aristote. La psychologie moderne se construit absolument en dehors d'une philosophie du vivant. Alors que nous devrions, nous, avec notre philosophie du vivant, avoir le pos, le comment, qui nous montrerait la diversité des imaginations. Et ça joue énormément pour voir les diversités entre l'homme et la femme, au point de vue psychologique. Alors, répondons aux questions. Je voulais vous dire ça. D'une façon générale, on peut dire que la psychologie féminine se développe énormément du côté de la disposition et du côté de la finalité. Et la psychologie masculine se développe énormément du côté de l'ordre spécifique. Il y a là une très grande diversité. Oui. La disposition, quand la fin, quand la cause formelle est présente, elle se développe du côté de la finalité, comme le rayonnement, comme la gloire. La femme est beaucoup plus sensible à la gloire, à sa manière, le point de vue final et le point de vue dispositif. La disposition, c'est très net. Dans une famille, on voit tout de suite le rôle de l'épouse. Dans l'éducation des enfants, on voit tout de suite le rôle de la mère. Il est du côté de la disposition. Alors, la disposition est du côté de la matière, du côté du devenir, tout ce qui devient. C'est pour ça qu'Aristote dira, petite phrase comme ça, la mère, c'est comme la matière, parce que c'est elle qui fait le nid. Et là, un foyer, c'est un nid familial, hein. Et c'est la mère qui fait ça, beaucoup plus que le père. Le père peut très bien avoir son travail en dehors du foyer, il vaut peut-être mieux même qu'il a son travail dans le foyer. C'est toujours mieux donner conseil qu'il ait son cabinet de médecin en dehors, qu'il n'est pas chez lui. Tandis que la mère, c'est le foyer. Elle règne le foyer, c'est la disposition. Alors, chez les animaux, je ne sais pas, il faudrait voir. Si le nid est fait plus par la femelle que par le mâle, c'est très curieux. Alors, chez les lions, puisque les lions ont des familles, hein. Il y a des familles de lions. Au Rwanda, puisque là j'y étais, au Rwanda, comme il n'y avait pas avant la Grande Guerre, au Rwanda, le jardin, l'endroit où on élevait les animaux, n'était pas fermé. Il n'y avait pas de jardin. Simplement un coin réservé. Et on ne chassait pas. Donc on prétendait, et on a bien vu que c'était juste l'inverse, hein. La chasse peut être une merveilleuse éducation de l'irascible. Au Rwanda, on avait l'inverse. On disait, la chasse des animaux, il faut les supprimer. Parce que ça éveille l'irascible. Alors, au Rwanda, on pénétrait tout simplement dans l'endroit où tous les animaux étaient présents. Et entre deux prédications, j'ai été visiter cet endroit où on gardait des animaux rares. Et là, on m'a dit tout de suite, Il y a deux familles de lions. Alors, laquelle y est voilée? Je ne sais pas, ça m'est égal. Alors, on m'a conduit là où ils étaient en train de manger. J'ai assisté au repas de famille. Et vraiment, une petite voiture toute petite, on était là, tout à côté du lion. On pouvait presque. On m'a dit, surtout n'ayez pas la tentation de caresser le lion, sa crinière. Vous aurez la tentation. Et en effet, il était là à côté de moi, on a envie d'ouvrir la fenêtre, caresser sa crinière. Parce que si vous caressez cette crinière, il va se tourner sur vous et il vous mangera le bras. Alors, on va. Et j'ai assisté au repas. C'était la lionne. C'est la lionne qui tue. C'est pas le lion. C'est la lionne qui tue. C'est la lionne qui partage toutes les pièces. L'animal est tué, on le dépeçait ensemble, tous les petits lions sont à côté, il regarde ça, et puis le père lion est au milieu, et il est servi le dernier, et le plus gros morceau, évidemment, le plus beau morceau que la lionne réserve à côté. Et c'est extraordinaire de voir ça. Et c'est des mœurs animales qui font comprendre un peu le maître de famille. Hein. C'est quelque chose. Il reçoit le gros morceau, il assiste au partage de la victime. Et c'était d'autant plus curieux qu'on voyait que la victime, c'était, je ne sais plus quel animal. Et il y avait un animal de la même espèce dans le fond. Vous voyez, et c'était son frère qu'on avait tué. Bon, revenons. La mère, c'est le foyer, c'est la disposition. Mais, alors ce qui est terrible, c'est quand la mère est retirée du foyer, il n'y a plus de foyer. Elle doit travailler en dehors. La disposition, alors tout ce qui est de l'ordre de la disposition est beaucoup plus développé chez la femme. Et la tenue de la maison, la propreté de la maison, tout de suite ça se voit. La mère, c'est la disposition, et la disposition, c'est toujours le point de vue en même temps de la finalité. C'est les deux points où la femme excelle, disposition et finalité. Alors quand elle n'a plus la finalité, elle s'engage dans la disposition d'une façon totale, ce qui énerve l'homme. Tout est bruit de famille. Hein. Vous n'avez qu'à regarder, c'est toujours comme ça. L'homme, c'est l'ordre. C'est la spécification, c'est la forme. C'est ça qui domine chez lui. C'est rare, très rare, que la finalité, ça existe hein, heureusement, mais que la finalité domine complètement l'activité de l'homme. Il aime mieux l'ordre que la finalité. Et c'est constamment comme ça. Une espèce de bataille entre l'homme, c'est la spécification, c'est l'ordre. Et l'épouse, la femme, c'est la disposition et la finalité. Creusez ça, parce que ça me semble très. Ce qui est le plus important. Positivement, qu'est-ce que la différence homme-femme apporte à la famille humaine, en plus de la procréation, l'éducation, hein, c'est sûr. L'éducation et la tenue du foyer. soit un vrai foyer. Par exemple, qu'est-ce que le philosophe pourrait répondre à ceux qui veulent permettre à un couple de deux hommes, de deux femmes, d'adopter un enfant? Quand ce sont deux femmes, puisque aujourd'hui, la loi reconnaît ça, le couple. Et même pour les religieux, hein, quand vous voyagez du samedi au dimanche, si vous voyagez selon l'évangile, avec un apôtre à côté de vous, vous êtes deux apôtres, vous participez à la loi commune d'être deux. Et c'est beaucoup moins cher. Extraordinaire, ça. Et c'est intéressant à noter, puisque on favorise quelque chose. Moi, je ne savais pas que c'était poussé jusque-là. Je suis toujours voyageant avec quelqu'un d'autre, un frère, n'importe qui, hein. Vous êtes deux. Il y a un seul biais. Pour être sûr que ce soit deux. On ne vous donne pas deux biais, puisqu'on pourrait tromper les gens. Non, non. On vous donne un seul biais. Et avec un seul biais, vous voyagez deux. Et le contrôleur s'amuse à voir quels sont ces deux. Alors quand il voit deux religieux, il dit non. C'est amusant. La complicité qu'il y a. Bon. Tout ça, il faut être très attentif. Parce que tout ça est ordonné à quelque chose. On ne dit pas. Vous comprenez? Le couple homme-femme, qu'avant respecté chez monsieur le maire avec dignité, maintenant se multiplie. Alors, on en reçoit les éclaboussures. De religieux voyage. Alors, je n'ai pas demandé si c'est un religieux ou une religieuse, c'est qu'est-ce que ça fait. Un seul biais. Alors, donc, la procréation, on est en train de chercher pour qu'elle soit dépassée. Alors vous serez de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On voit très bien. On vous demandera, est-ce que vous venez d'une procréation de vos pères et ou le clonage. Ça sera marqué sur votre front. Il y aura deux espèces d'hommes. Ça, c'est recherché scientifiquement, avant tout. Pourquoi? C'est ça qu'on doit se poser, nous. On doit se poser le pourquoi en tant que philosophe et en tant que chrétien. Alors, on peut dire que l'éducation, faire exactement la même éducation pour le petit garçon, pour la petite fille, faire exactement la même éducation, on tend à ça. Mais est-ce que ça permettra de faire quelque chose de mieux ? Pas. Parce que s'il y a diversité voulue, pas par l'homme, nous disons par Dieu, pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il dit c'est un donné, Ce donné fait que il y a des qualités différentes très vite qui a développé. du côté du petit garçon et du côté de la petite fille. Qu'il y ait quelque chose de commun, c'est sûr, mais il y a une diversité. Et nier cette diversité pour faire une éducation tout à fait commune, ça diminue la richesse de la nature humaine. Ça, j'en suis sûr. On s'en apercevra plus tard. Je vous ai toujours cité ce petit exemple en Israël. Et ça, je l'ai fait moi-même. Je peux vous dire que j'ai fait cette expérience de visiter un kibbutz. Bon, les kibbutz, j'étais à Jérusalem. À ce moment-là, j'allais tous les ans prêcher Jérusalem. Tous les couvents des 20 heures. Ça m'intéressait beaucoup d'abord pour ces divers couvents, et puis ça me permettait d'y aller. Et c'était juste à ce moment-là que j'ai visité un kibbutz. C'est le début. Et c'était très large, je faisais ça avec beaucoup de soin. Un guide merveilleux. Alors, à ce moment-là, on voulait faire une éducation modèle. Parce que les Juifs sont très, très portés à faire quelque chose de modèle. On retirait l'enfant dès qu'il était né. On le laissait avec sa mère. Et on le laissait à la famille 2 heures par jour. Jamais plus. Jamais la nuit. 2 heures par jour. Je retourne 10 ans après. Et on n'en parle plus. Le guide était un Espagnol. Très nettement qu'il était catholique, mais qu'il était de race juive et qu'il était repassé à son peuple juif. Et fait le guide. Il me regardait tout le temps. Ça m'intéressait beaucoup de le regarder aussi. Puis il n'a rien dit du tout sur l'éducation. Alors à la fin, il dit, s'il y a des questions à poser, on peut les poser. Alors je dis, j'aimerais beaucoup de savoir au point de vue d'éducation, comment ça se passe? Alors il m'a regardé avec un air de connivence. Il m'a dit, ah, je comprends, c'est une très bonne question. Alors il a dit, au début, on a fait ça. Je dis, oui, en effet, il y a 10 ans, j'avais visité, on m'a dit ça. Et maintenant, on est revenu à laisser l'enfant à la mère. Au bout de 5 ans. Je lui dis, et pourquoi? Ah, parce que on a remarqué que si on retirait les enfants à la mère, il y avait un retard qu'on a évalué presque d'un an pour l'éducation des petits garçons et des petites filles. Presque un an. L'éveil se faisait moins vite. L'éveil de l'intelligence. Ils avaient 1 an de retard. On a vu alors à ce moment-là qu'il y avait une affectivité de la mère qui ne pouvait pas éduquer l'enfant de la même façon. Et par le fait même, je m'excuse, mais je vous en supplie, si vous ne suivez pas, ne venez pas. Parce que c'est très gênant de voir quelqu'un qui lit à côté de vous. Je m'excuse de faire ces remarques-là. J'en suis désolé. Mais on est tellement dépendant du milieu, vous savez. Excusez-moi. Alors, je dis, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis l'enfant aux parents. On a remarqué que l'affectivité maternelle, n'existant pas, une infirmière aussi bien éduquée et intelligente qu'elle puisse être, ne pouvait pas remplacer une mère. Ça, je trouvais ça merveilleux. Et quand même, je trouvais, et reprenais. Alors, ils ont dit, mais à partir de 14 ans, 13-14 ans, où l'enfant commence à avoir des passions fortes de jalousie, la petite fille pour la mère, le garçon pour le père, on les retire aux parents. Alors, je lui ai répondu, je reviendrai dans 10 ans pour voir ce qu'on... Alors, il a souri. Mais, au fond, l'éducation de la jalousie, puisque c'est le péché dominant, c'est la passion dominante, la jalousie. Le monde est mené par des jalousies. Et toutes les luttes sont la jalousie. Lisez la Genèse, hein. Vous verrez ça. Dans la Genèse, on voit très bien que la jalousie fait la division de la famille. Alors, il partait de ce raisonnement. Quand la jalousie commence à s'éveiller, si ça peut se faire en dehors de la famille, ça se fera mieux. Alors, attention, corriger la jalousie à l'intérieur de la famille, c'est plus facile, ça se voit mieux, et il faut laisser la jalousie s'éveiller. Et si vous n'êtes pas corrigé de la jalousie quand vous êtes tout jeune, à 14 ans, elle rebondira quand vous aurez 20 ans et 10 ans. Et ce sera très difficile à corriger. Oui, la famille permet d'éduquer les passions. Et supprimer la famille, c'est aller vers un monde de division. Et de division mortelle. Hein. Parce que dans l'écriture, c'est toujours la jalousie qui. Le frère tue le frère. Et Cain, ça a commencé comme ça. Mais la Bible nous donne des leçons de psychologie qui sont plus parfaites que partout, que nulle part ailleurs. Et on voit très bien que ces jalousies très très radicale, si elle ne se corrige pas dans la famille, elle remonte après. Et elles sont terribles quand elles n'ont pas été corrigées à 14 ans ou 13 ans. Et on arrive très difficilement à corriger quelqu'un de la jalousie à 18, 20 ans, 30 ans. Alors c'est pour vous montrer que le point de vue du couple, de la mère et du père, permettent la correction des passions à l'intérieur de la famille. La famille, c'est un petit monde. C'est le monde, c'est un petit monde merveilleux. Alors, comme c'est un petit monde merveilleux, tout est très grossi dans la famille. Tout est très gros. Et il y a des choses qui ne peuvent se voir qu'en famille. On a des loupes. Et ne peuvent se corriger qu'en famille. Alors, ce serait très intéressant à voir. Vous voyez, tous l'éveil. Je prends les deux exemples. Et ça, je trouve très étonnant. L'éveil de l'intelligence. Or, pour un juif, l'éveil de l'intelligence, c'est capital. Ils ont un culte de l'intelligence. Hein, parce qu'ils sont très intelligents, ordinairement. Alors, c'est l'éveil de l'intelligence qui est capital. Or, retarder l'éveil de l'intelligence, si la mère n'est pas là, on aurait dû clamer ça. Et que les meilleures infirmières ne feront jamais ça. Deuxièmement, le point de vue affectif. Vous voyez, je prends l'intelligence et l'affectivité. Quel est le grand ennemi de l'affectivité? C'est la jalousie. C'est du responsable qui a une vie commune, hein. Quelqu'un qui est solitaire trop vite, quand il n'est pas encore vertueux, est consommé dans la vertu, et selon les vieilles habitudes, on pouvait être solitaire qu'au bout de 10 ans de vie commune. Quand on vieillit, on peut avoir la vie commune. Parce qu'on est censé avoir acquis les vertus. La vie commune, elle est faite pour acquérir les vertus qu'on ne peut pas acquérir quand on vit seul. La jalousie ne peut pas se corriger quand on est seul. Et le père peut seul rectifier dans la jalousie. Par exemple, qu'est-ce que le philosophe pourrait répondre à ceux qui veulent permettre à un couple de 2 hommes ou de 2 femmes d'adopter un enfant? Il y aura quelque chose qui ne se fera pas. Un couple de 2 hommes, c'est pas très drôle. Un couple de 2 femmes, c'est encore moins drôle. On voit ça aujourd'hui, hein. Ça se voit. Et vous voyez, je parle de l'enfant là, de l'éducation. Pour nous, pour l'homme, l'enfant homme est l'animal qui naît avec la plus grande faiblesse. Il n'y a aucun animal qui doive être couvé pendant 1 an. Aucun. Aucun animal ne naît dans la faiblesse du petit enfant qui naît. Et alors, on donne des explications, mais l'explication, c'est qu'il y a l'intelligence à éveiller. Et l'amour a éveillé. Et c'est pour le rôle de la mère. Aucun animal féminin ne couvre ses enfants pendant 1 an. Et le petit veau, ça va plus vite. Alors, c'est ça qui fait comprendre qu'est-ce que c'est que la mère. C'est que l'éducation maternelle ne peut pas se remplacer. L'éducation paternelle ne peut pas se remplacer. Et quelqu'un qui, dans sa famille, n'aura pas eu l'amour maternel, eh bien, il faut justement être très attentif et ne pas l'accuser. Il n'en peut rien. D'avoir eu une mère qui n'a pas été une mère, ou un père qui n'a pas été un père. On doit là être très attentif et voir où, et je prends là exprès, parce que ça c'est l'expérience. Pour l'amour, la jalousie, et puis l'intelligence, c'est l'éveil. Alors, soyez attentif à ça. Essayez de constater vous-même, parce qu'on doit avoir cette expérience-là. Si on veut vraiment prêcher aux familles et leur faire comprendre ce qu'elles sont, il faut avoir vu ces choses-là. Et puis, pour nous, c'est Dieu qui a fait ça, qui a voulu qu'il y ait 2 types de la même nature et 2 personnes personnalité différente, celle de la femme qui est mère, celle de l'homme qui est père. Et c'est pour cela que dépasser le point de vue de la procréation pour se vouer à quelque chose, seul le point de vue de la contemplation, disent les théologiens, saint Thomas, je ne peux me dispenser de me marier que pour une seule raison, c'est d'être un contemplatif. Je ne peux pas me dispenser de me marier au point de vue artistique. C'est des questions que vous posez, ça. Et je l'ai vu encore récemment à Genève, quand on voit ces artistes, ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Chez les mariés, il y a une complémentarité merveilleuse de l'artiste, le grand artiste, et puis la paternité, deux points de vue tout à fait complémentaires qui se développent. Et on est en face d'un homme qui a des qualités merveilleuses comme artiste et comme père. Et l'art développe l'intelligence et la paternité développe le cœur. Et alors, pour nous, qui sommes consacrés à Dieu, l'amour du Christ, l'amour de la Vierge, nous permettent de développer d'une façon très particulière notre intelligence. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si nous fréquentons Jésus, petit à petit, notre intelligence se développe auprès de celle du Christ. Et si nous sommes vraiment à l'égard de Marie, ce que nous devons être, c'est-à-dire toute l'affectivité de Marie, alors aussi se développe en nous là. Il faut bien comprendre que le dépassement du foyer ne peut n'est légitime que à l'égard de la contemplation. Alors la question se pose, est-ce que c'est légitime même pour une vie de pure miséricorde, ça donner entièrement la miséricorde? Ce sont des questions qu'on vous pose. Hein. Un garçon qui n'a aucune envie d'être religieux, aucune envie d'être prêtre, mais qui a envie de se donner à fond à la miséricorde. Aux pauvres, peut-il ne pas se marier? Ou doit-il, devez-vous donner conseil qu'il doit se marier? C'est une question très délicate. Pour la vie religieuse, oui, parce que c'est Jésus et c'est Marie. Mais pour la question tout simplement humaine de miséricorde, parce que ces œuvres de miséricorde ne prennent pas tout l'homme, et c'est une question qui se pose énormément aujourd'hui chez les jeunes, qui ont une très grande générosité. Alors pouvez-vous leur conseiller de ne pas se marier? Parce qu'il y a des tas d'arguments aujourd'hui de ne pas se marier. point de vue classique, c'est Jésus, c'est la vocation contemplative. Et la vocation contemplative doit se développer tout de suite. Si on est très pris par une œuvre, c'est très bien. Mais il faut bien se dire que quand on arrivera à 50 ans, l'œuvre ne suffira plus. Ou 50, 60 ans. S'il n'y a pas la contemplation. Mon Père, vous nous avez parlé de la cohésion. De la confusion entre l'affectivité passionnelle et l'affectivité sexuelle et l'affectivité spirituelle dans notre monde actuel. Oui, Freud. Le grand tort de Freud, c'est ça. C'est de confondre la tendresse et la sexualité. Et de comprendre que la sexualité s'éveille dès le point de départ chez l'enfant. Ce qui est faux. Puisqu'on regarde la personne, donc le POS, pouvez-vous nous parler de l'éducation de l'affectivité et comment nous pouvons aider des jeunes qui se confient à nous et qui n'ont pas été éduqués dans l'affectivité? C'est très vrai, ça. Des jeunes qui n'ont pas connu de famille, les enfants de la rue. Qui n'ont pas connu la tendresse de la mère. Alors, comment l'affectivité, pratiquement, n'aura pas été développée et tout de suite l'affectivité sera sexuelle. C'est sûr que c'est très difficile. Je crois qu'il faut témoigner beaucoup de tendresse, d'affectivité pure, mais d'une façon qui soit vraie, hein, pour faire comprendre que l'affectivité n'est pas uniquement une affectivité sexuelle, qu'il y a en nous une nécessité d'une affectivité tendresse humaine. Je prends tendresse et en même temps de force, une affectivité virile, on dirait. Parce que l'affectivité tendresse peut devenir quelque chose d'un peu trop tendre. Et alors à ce moment-là, c'est l'affectivité qui se corrompt. Mais l'affectivité réclame d'être purifié par l'intelligence. Elle doit exister, elle est purifiée par l'intelligence. Et elle demande ça. Alors, c'est très difficile, c'est sûr. Et il n'y a pas de méthode, hein. Il y a des méthodes intellectuelles, mais il n'y a pas de méthode affective. Quand on vous prétend d'avoir des méthodes affectives, c'est faux. L'affectivité est l'affectivité du sujet, de l'individu. Saint Thomas l'affirme, hein, le point de vue de l'affectivité, c'est le sujet. Tandis que l'intelligence est une faculté qui abstrait. Donc elle a sa pureté. Tandis que l'affectivité, c'est tout le sujet qui aime. Alors c'est très bien. Quand on aime, on est pris au plus intime de son cœur. Donc, c'est beaucoup plus difficile de purifier l'affectivité et de la viriliser, de faire qu'elle reste tendre, qu'elle reste affectivité. Vous voyez, c'est connu ça, on voit très bien, on voit ça chez des très saintes religieuses du temps passé. Alors elles sont rigides. On a l'impression qu'il n'y a plus un pouce féminin. Ah, parce qu'elles sont consacrées à Dieu, il n'y a plus rien de femme. Alors, Marie n'a pas été comme ça. Sûrement pas. La Très Sainte Vierge a gardé son affectivité pour Jésus, pour Jean, pour nous. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'éduquer l'affectivité que d'éduquer l'intelligence. Or, ordinairement, surtout aujourd'hui, on développe énormément le point de vue intellectuel et on ne développe pas du tout l'affectivité. Regardez, dans les méthodes françaises, on va développer ce qui est ordonné énormément les mathématiques. Le développement des mathématiques n'éduque en rien l'affectivité. Les mathématiques sont séparées de l'affectivité. Et le développement des mathématiques, très poussé, et oui, on a remarqué que les mathématiques, on ne progresse que jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, c'est fini. Mais il n'y a plus de progrès mathématique. On disait ça, je ne sais pas si ça a changé, mais on le disait souvent, il fait, le matheux doit être très jeune élite. Parce que à 40 ans, à partir de 40 ans, on est trop déterminé pour que on puisse vraiment avoir des intuitions mathématiques. Parce que c'est dans le domaine mathématique que les intuitions sont les plus fortes. Et le domaine mathématique se développe sans affectivité. Alors c'est des choses terribles de voir un ménage où on voit qu'ils se sont aimés énormément. L'homme a développé ses mathématiques à 50 ans, il n'y a plus un pouce d'affectivité. C'est terrible ça. Mais, parce que c'est toujours notre éducation, c'est l'intelligence et l'affectivité. C'est toujours ça. Et c'est le lien des deux. Mon intelligence est là pour m'aider à être plus aimant. Puisque Dieu, je l'approche plus par l'amour. Vous savez, la grande loi de saint Thomas pour l'éducation, c'est les réalités supérieures à l'homme, supérieur à nous, à un homme. Il vaut mieux les aimer que de les connaître. Les réalités inférieures à l'homme, à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer. C'est un examen de conscience qui est merveilleux, ça. Et ça, c'est saint Thomas. Les réalités supérieures à nous, il vaut mieux les aimer. Alors, supérieur à nous, c'est Dieu, et c'est le prochain. Le prochain, en tant qu'il est mon prochain, est supérieur à moi, je m'arrête pour lui. Il détourne mon chemin, je l'accepte. Il m'arrête. J'ai du temps pour lui. Le prochain, misérable, il est supérieur à moi. Tout prochain. N'importe qui. Tant que vous regardez votre prochain comme supérieur à vous, ça va. Si facilement nous regardons le prochain du haut de notre grandeur, alors à ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui meurt. L'amour à l'égard du prochain. Ça, c'est une règle, hein, qui doit être pour nous, parce que c'est un peu le résumé de tout saint Thomas. Hein. Pratiquement, ça se résume à ça. Les réalités supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. Vous voyez, alors quand on pousse énormément le point de vue intellectuel, le point de vue théologique, on oublie le point de vue affectif, l'oraison, la prière, le développement de l'amour. Quand on développe énormément le point de vue intellectuel, et le prochain le laisse mourir. Le prochain, il vaut mieux l'aimer que le connaître. Or aujourd'hui, il y a une connaissance du prochain, surtout quand il y a des choses qui ne vont pas en lui, c'est sûr. Mais très facilement, on met la connaissance au-dessus. Vous voyez, on a un culte de la connaissance qui, au fond, prend tout. Il y a encore plusieurs questions, mais il faut s'arrêter. J'entends très souvent cette phrase, pour aimer, il faut se laisser aimer. Mais comment aimer la personne qui nous aime d'un amour qui ne s'arrête pas à la bienveillance et auquel nous ne pouvons pas répondre parce que sensiblement il n'y a rien à leur égard. Qu'elles aient des qualités, qu'elles soient belles, qu'elles soient sympathiques, c'est déjà beaucoup, cela ne suffit pas pour les aimer d'un amour d'amitié. C'est très vrai. Un amour d'amitié implique un choix. Et on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est sympathique. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est beau. Oui, on fait ça à 15 ans, à 16 ans. Et après, on est un peu plus intelligent. Cette question, on la traitera la fois prochaine.